truc. Mais c'est reparti à l'état sauvage, comme le pays en fait. Hein. Ça raconte le pays. Alors lui, quand il arrive là, il le fait, il se retrousse les manches, il fait œuvre de civilisateur, de saint fondateur, et donc on lui attribue tout ce qui est bon. C'est-à-dire qu'il y a un chêne. La rue existe toujours, Wesendan, à Saint-Paul. Peut-être certains connaissent la rue Wesendan. C'est une très très vieille rue, et c'est la rue du chêne. Chêne, c'était, vous savez, pour les druides, c'était extrêmement important. Et dans ce chêne, qu'est-ce qu'il y a? Des abeilles, mais terribles. Des frelons asiatiques, on va dire. Hein? Et lui, il est gris-gris, il prie. C'est-à-dire, il les regarde d'un autre œil. Il les regarde avec karuna, compassion, je veux dire comme ça, de temps en temps, je mets un petit peu d'Orient quand même, ou bien avec amour. Toujours dit, ce sont des abeilles, et il distribue les abeilles à tout le monde. Et donc, il apporte le miel. Après, on ne peut pas rentrer dans l'oppidum alors qu'il y a une source. Enfin, on ne dit pas qu'il y a une source, mais c'est lui qui l'a fait jaillir. Enfin, évidemment qu'ils avaient construit là où il y avait de l'eau. Hein, bon. Mais on lui attribue tout, quoi. Et là, c'est plein de sangliers très méchants et qui sont commandés par une laie qui a toujours des marcassins autour d'elle. Une immense laie sauvage. Pachamama, quoi. Ou la déesse qui a effet, là, vous savez qu'il y a plein de saints, là. Toute une lignée de saints, vous voyez pas. C'est comment ça s'appelle, ça? Je sais plus. Pourtant, Dieu sait, si je suis allée à Éphèse, je la vois pas. Peu importe, c'est pas grave. Enfin, bref, c'est au féminin, mais alors lui, il va voir la laie, il l'apprivoise. Il n'a pas peur. Il la regarde et il lui sourit. Et là, du coup, ça me fait penser, tout de suite, je vais vous lire une phrase de Rilke, Rainer Maria Rilke, un très grand poète allemand, qui a beaucoup connu les anges, et puis que, comme je vais lire un truc des dragons, je vais dire un truc sur les anges de lui, dans la deuxième élégie de Duino, il dit « Tout ange est terrible, pourtant je vous invoque, oiseau presque mortel de l'âme. » C'est magnifique. « Tout ange est terrible, pourtant je vous invoque, oiseau presque mortel de l'âme. » C'est tout le contraire des petites grosses fesses avec des petites ailes là qu'on voit là dans le... enfin, à l'époque... comment ils appellent? Les poutis. Je les regarde d'un œil mitigé, parce que je veux dire d'abord le mal, puis après le bien. Parce que d'un côté, je me demande s'ils n'étaient pas déjà, qu'ils étaient tordus complètement au niveau de la sexualité à cause de l'enseignement du christianisme, complètement pas compris, hein, à côté de la plaque. Et donc, peut-être qu'ils étaient tous en train de rêver aux fesses des petits qui étaient là, qui leur étaient confiés. Ben, écoutez, c'est ce qu'on voit, hein. Ça n'arrête pas. Ou bien alors, peut-être qu'ils avaient, au contraire, ils avaient compris que le plus bel amour, enfin, l'amour auquel on peut comparer l'amour de Dieu, c'est peut-être l'enfant. Et dans beaucoup de traditions, c'est l'enfant qui fait craquer. Bon, l'enfant Jésus, le divin enfant, mais aussi Krishna, enfant, et bon, je passe. Parce que sinon je vais développer là-dessus. Voilà. Donc, un enfant, un petit enfant, nous fait craquer. Et Rilke écrit, tous les dragons de notre vie sont peut-être des princesses qui attendent de nous, qui attendent de nous voir beaux et courageux. Toutes les choses terrifiantes ne sont peut-être que des choses sans secours qui attendent que nous les secourions. Et peut-être tout frelon sauvage et peut-être une reine abeille qui va donner plein de miel à condition que nous l'embrassions. Comme, je ne sais plus comment ça s'appelle, la belle et la bête. Vous voyez, quand il arrive, il est empli, vibrant d'amour. Donc, c'est bon, il y a des abeilles, il y a du cochon, parce que dans le cochon, tout est bon, Dieu sait s'il est content sur ça. Et donc, il y a du cochon, c'est les sangliers. Donc, on peut vivre. Après, il doit s'affronter. Alors, on n'en parle pas du tout dans la cathédrale de Saint-Paul et tout ça, donc je vais laisser tomber l'ours, mais je laisse tomber l'ours. Sauf que l'ours, c'est Arve, et c'est la racine du mot Arthur. Le mot Arthur, c'est Arzur. C'est Arve. C'est l'ours, parce que l'ours est proche de l'homme en même temps, enfin, c'est très compliqué. Il se met debout, enfin bref. Mais comme on n'en parle pas ici, je laisse tomber l'ours. Il y a un taureau. Le taureau, il est terrifiant. C'est comme apprivoiser le buffle, comme tu me dis, dans le début du chemin de la transformation chez les bouddhistes. Le taureau est terrifiant, mais en même temps, il ressemble un peu à Jésus parce qu'il se sacrifie. Il meurt et il ressuscite. Il est sol invictus, le soleil qui n'est jamais vaincu, parce qu'il se couche la nuit, mais il rejaillit le matin. Et c'était. Le culte de Mithra, c'était énormément les légionnaires, justement, les soldats romains avaient le culte de Mithra. C'est un ancien culte. Et le taureau, il y a des vaches autour de lui, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de taureaux. Ça ne sert pas à grand-chose, finalement. Mais les vaches donnent du lait. Donc il va y avoir du lait, du beurre. Du quignoman, quoi. Hein? Du lait et du beurre. Donc. Et oui, et des galettes saucisses et tout ce qu'on veut. On lui attribue encore plein d'autres trucs, mais vous voyez, il est civilisateur. Il est fondateur. C'était important pour les gens d'ici de se dire qu'ils avaient un ancêtre sur qui ils pouvaient compter. Et c'est vraiment dans tous les peuples. Il y a des héros fondateurs. Il y a un migrant, il enseignait, etc. Et puis il dit, bon, ben, cette fois-ci, je veux m'installer. L'ange me dit que c'est possible, dans le coin. Alors il s'adresse à quelqu'un qui lui dit, écoute, toutes ces terres-là, jusqu'à la Penzée, Penzance, oui, on voit bien la langue, enfin les Bretons, c'est Penzance en face. Hein? Penzée. Hein? Oui? Oui? Le bouc. Du jour. Donc, il va là, tout ça. Saint-Paul, Roscoff et tout ça, c'est un territoire qui appartient au comte Witur. Alors, ce qui est étonnant, c'est que le comte Witur, on n'en trouve aucune trace dans l'histoire, alors qu'on connaît la trace des Osismes, etc., après le roi Childeric, enfin bref. Et on lui dit, ben lui, il s'est retranché tout au bout, donc à l'île de Bas. Et là, il passe à l'île de Bas, alors il fait des miracles aussi, il relève un paralytique, il redonne la vue à des aveugles, je ne sais plus quoi encore, enfin bref, tout comme Jésus, quoi. Parce que pour assimiler une religion qui vient de la Palestine, pour des gens d'ici, ce n'était pas si facile, donc il fallait qu'ils apprivoisent, qu'ils trouvent comment se la raconter, que ça leur soit familier, et qu'ils puissent la mâcher, la remâcher, la digérer, et que ça soit vraiment profond pour eux. Hein? Donc, il arrive là et il trouve son cousin en train de finir d'écrire le manuscrit des évangiles enluminés. Donc il y avait déjà un scriptorium, etc. en principe. Enfin, peut-être pas, mais il est raconté comme ça 3 siècles plus tard. Donc lui, il était chrétien. Il était en train de recopier les évangiles, vous voyez. Et c'est le pendant de Paul Aurélien. Il veut aussi être tranquille, enfin, etc. Et alors ils s'embrassent, ils sont contents, c'est les retrouvailles des frères et des cousins. Ils sont chrétiens, navigateurs, aventuriers, savants, ils sont tout ça en même temps. Et donc ils se reconnaissent.